Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
Usted está Terre d'Alliance.
Sur France Inter.
France Inter.
Con Alexandre Hérault.
Le français n'appartient pas aux Français. Le français est une langue universelle. Elle appartient à qui la parle et qui l'aime et qui a envie de la parler.
Et oui, il a raison, Boualem Sansal, le romancier algérien récompensé cette année par le Grand Prix du roman de l'Académie française pour son livre 2084. Le français n'appartient pas qu'aux Français. Et c'est une évidence qu'il convient de souligner en ouverture de cette inédite plongée estivale à travers le réseau des alliances françaises, des alliances pilotées par une fondation du même nom et que nous avons presque, chers auditeurs francophiles et francophones, transformées en merveilleux et très efficace tour opérateur. Et même si c'est pas sa vocation première, nous aurions eu tort de ne pas le faire, tant son maillage sur la planète est incroyable. Ce sont plus de 800 alliances françaises qui sont présentes aux quatre coins du globe, sur les cinq continents, dans 133 pays. Cela se pose comme la plus grosse ONG culturelle du monde. Pas moins que cela. Et avec celui qui en est son nouveau président depuis 2 ans, nous allons en évoquer aujourd'hui la très sidérante et véridique histoire, Jérôme Clément. Bonjour.
Bonjour.
Pour vous accueillir et pour guider nos propos toute cette heure, je vous propose d'écouter avec nos auditeurs une première pépite tirée de nos archives de l'INA. Notre rencontre va donc commencer avec ce micro-trottoir réalisé en février 69.
Terre d'Alliance, Alexandre Hérault, sur France Inter.
D'à côté de l'Alliance française. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'Alliance française ?
Oh, pas du tout, pourquoi ? Son activité, ben c'est de la propagation de la langue française en France, uniquement.
Monsieur, vous êtes pompiste, boulevard Raspail.
Oui.
Est-ce que vous savez ce que c'est que l'Alliance française ?
Vaguement entendu parler.
Vous ne savez pas du tout quelle est son activité ?
Non.
Ni à quoi elle sert ?
Non, pratiquement pas.
Est-ce que vous savez quel est son but ?
Non plus.
Madame ne connaît pas la radio française, alors ?
Et connaissez-vous l'Alliance française ?
Adressez-vous boulevard Raspail, au 101.
Merci, madame.
Je remercie la radiodiffusion nationale de l'occasion qu'elle donne en ce moment au président de l'Alliance française de dire une fois de plus ce que c'est que l'Alliance française. Je voudrais pouvoir mettre sous les yeux de nos auditeurs la carte du monde.
Aïe. L'aiguille dérape, Jérôme Clément. Rassurez-vous, vous n'allez pas subir le même traitement quelque peu irrévérencieux que nous nous sommes autorisés de faire en coupant là la parole de l'un de vos illustres prédécesseurs. Dans cette seconde archive, vous avez reconnu, on était là en 1955, je disais vous avez reconnu peut-être pas, mais il s'agissait d'Émile Henriot, voilà. C'était il y a 62 ans. Vous étiez alors en culotte courte, Jérôme Clément, vous aviez tout juste 10 ans. Mais l'Alliance française était déjà, en 1955, une vaillante septuagénaire. C'est dire son âge à cette vieille dame aujourd'hui, respectable.
Bah oui, c'est une aventure effectivement tout à fait extraordinaire, puisque l'Alliance française a été créée le 21 juillet 1883.
C'était un samedi au mois de juillet,
voilà,
c'est ça,
exactement, hein, comme aujourd'hui. Qu'un certain nombre d'hommes respectables se sont réunis boulevard Saint-Germain pour se dire, dans le fond, si on crée un club, un cercle qui permettrait de diffuser la langue et la culture française. Il faut dire qu'on était après 70, après la défaite de 1970, ouais. Et au moment où il fallait réparer l'échec des armes par les charmes de la culture.
Oui.
Et donc montrer que les là où on avait pu avoir des revers, et puis c'était l'époque de l'expansion coloniale, ou en tout cas du grand débat sur l'expansion coloniale, notamment entre Jules Ferry et Clémenceau, et donc y avait ce désir de montrer le rayonnement de la France par sa langue et par sa culture.
Alors vous avez dit quelques personnes respectables, mais on peut tout de même les nommer parce
oui,
que...
Oui, bien sûr. Alors les principaux, c'était Paul Cambon, qui était un diplomate, ambassadeur en Turquie, enfin dans beaucoup de pays, un très grand diplomate, très connu.
Il était chef de cabinet de Jules Ferry, d'ailleurs.
Absolument, chef de cabinet de Jules Ferry. Pierre Foncin, un géographe. Ça, c'est intéressant parce que les géographes ont joué un très grand rôle dans cette aventure. Il y avait beaucoup de sociétés de géographie. Peut-être parce que le monde était de commençait à être plus connu, qu'il y avait beaucoup de... C'est la période des explorateurs, Savorgnan de Brazard, enfin, tous ceux qui partaient à la découverte, et aussi dans la rivalité coloniale entre les grandes puissances.
D'ailleurs, on retrouve Jules Verne dans ce comité fondateur.
Alors oui, il y avait effectivement Paul Bert, qui était ministre de l'Instruction publique, et puis il y avait Louis Pasteur, Ernest Renan, grand intellectuel, Jules Ferry, Jules Verne, bien entendu, et Ferdinand de Lesseps, qui a été le deuxième président. Ferdinand de Lesseps, c'est tout à fait significatif, parce que c'est lui qui a fait le canal de Suez, et puis ensuite Panama, mais le canal de Suez, c'était quand même un personnage considérable, grand bâtisseur, grand explorateur, et grand représentant de la France. Mais enfin, mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi des autorités religieuses. Ça, c'est intéressant aussi, parce qu'il y avait un missionnaire apostolique qui s'appelait Charmetan, il y avait, et donc qui était catholique, il y avait un monsieur qui s'appelait Alfred Mérargue, qui était trésorier du cercle, puisqu'au début on parlait d'un cercle qui était juif, et Paul Melon, qui était un universitaire protestant.
Okay.
Donc on avait les différentes confections, à l'exception des musulmans, il faut le remarquer. Donc c'était assez œcuménique dans tous les sens du terme, avec quand même une forte tendance à la laïcité. Même la laïcité est un des points forts de la charte qui a été créée à ce moment-là.
Et parce qu'il y avait des anticléricaux notoires
virulents. On était dans une époque très anticléricale. Il y avait Louis Pasteur aussi, donc il y avait pas seulement des intellectuels, il y avait aussi des savants et tous ces beaux esprits, ces grands esprits de l'époque.
Mais qu'est-ce qu'ils se disent alors, Jérôme Clément?
Ils se disent, on va créer une association nationale pour la propagation de la langue française dans les colonies et à l'étranger. C'est l'intitulé exact. Association nationale pour la propagation de la langue française dans les colonies et à l'étranger.
Et l'idée géniale, c'est laquelle?
L'idée géniale, c'est d'avoir confié cette responsabilité, non pas à l'État, mais aux autochtones,
c'est ça.
À ceux qui sur place, les comités locaux, on les appelait les comités locaux, c'est-à-dire toutes ces personnalités de la société civile qui aimaient le français, qui avaient envie de s'y intéresser et qui étaient prêts à tenter l'aventure. Et donc on leur donne le pouvoir. C'est tout à fait original parce que c'est ce qui explique sa longévité. On ne crée pas une structure d'État. On donne le pouvoir à des responsables locaux de présider les conseils d'administration, les directeurs qui étaient la plupart du temps français, les directeurs ayant pour charge d'aider les comités locaux à créer des associations locales.
Qui sont donc des endroits où on va apprendre le français, on va le propager, évidemment, dans ces pays.
On va apprendre le français.
Et la culture française aussi.
Et la langue et la culture. J'ai trouvé cette phrase lorsque l'alliance de Rio de Janeiro a été créée, par exemple, en 1886, parce qu'on ça a démarré tout de suite comme un feu de poudre.
Donc trois ans après la création.
La première d'ailleurs, c'était l'île Maurice. En 1884, après 1883. Puis il y a eu pas mal d'alliances qui ont été créées en France, effectivement. Et ça, c'est intéressant aussi parce que Jules Verne, par exemple, dont on a créé une à Amiens, Casimir Perier, futur président du Conseil, à Troyes, Jaurès aussi s'est lancé dans la bataille. Et puis, l'Australie, Shanghai, Pékin. Mais alors, Rio de Janeiro, le journal qui a présenté la création de la langue française en Amérique latine, est extrêmement significatif de l'état d'esprit de l'époque. Établissement où, sans distinction de nationalité, d'âge, de sexe, de condition, de fortune, de couleur ou de race, sera enseignée la langue dans laquelle ont été écrits pour la première fois les droits de l'homme. Et ça reflète bien l'image de la France à cette époque. C'était la patrie de la liberté, la patrie des droits de l'homme, la patrie des intellectuels, la langue diplomatique. Et donc, elle a été merveilleusement accueillie en Amérique latine, en particulier au moment de l'émancipation de tous les pays d'Amérique latine, des Espagnols et des Américains. C'est devenu la langue des droits de l'homme.
Alors, c'est intéressant ce que vous dites, Jérôme Clément, parce que en ayant eu le soin d'en visiter quelques-unes, et tout cet été, c'est ce voyage qu'on va faire à travers certaines des alliances françaises, à travers toute la planète, je me suis rendu compte que la France avait encore une idée qui était intéressante de sonder grâce à cette institution. On va donc faire un tour du monde, on va se reposer là-bas. On va faire juste une peut-être première pause musicale avec un titre qui s'appelle comme ça, Wonderworld. Je suis désolé pour mon français, mais c'est par nos ambassadeurs les plus écoutés dans la planète que ça va se jouer. Là, c'est les Daft Punk qui nous livraient ceci en 97. We'll be right back.
Terre d'Alliance, Alexandre Hérault, sur France Inter.
Claude Lafargue, vous êtes un cadre important à l'agence de publicité Young & Rubicam, et c'est vous qui avez orchestré la campagne en faveur de l'Alliance française. Cette campagne, d'ailleurs, vous l'avez conduite avec le concours entièrement bénévole de tous ceux qui s'y sont attachés, photographes, dessinateurs, maquettistes, imprimeurs, typos, les journaux, nos confrères périphériques et également l'Office de radiodiffusion télévision française. Quelle est l'image de l'Alliance française dans le public ?
Il n'y a pas d'image à proprement parler, à part dans un cercle extrêmement restreint d'étudiants, surtout à Paris. Les résultats sont extrêmement frappants puisque un quart de la population française connaît l'UNESCO, alors que simplement 7% connaissent le nom de l'Alliance française. Quand on en vient à une connaissance plus profonde, les résultats sont encore plus marquants puisque simplement 1% de la population française connaissent les buts poursuivis par l'Alliance et ont une idée des réalisations de l'Alliance française depuis sa fondation.
Alors, on était en 1969, Jérôme Clément, c'était oui. Cette campagne de sensibilisation qui avait été à l'époque menée, c'est ce qui les a conduits. Tout à l'heure, on en a entendu un extrait à ce micro-trottoir où on entendait les gens devant même le 101 boulevard Raspail, qui est le siège de l'Alliance française, ne pas savoir ce qu'était l'Alliance française et peut-être même où elle était. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, on en est où ? Est-ce que vous, à la tête de la Fondation Alliance française, vous êtes amusé aussi à sonder ce qui est peut-être encore aujourd'hui un déficit d'image ?
Oui, bien sûr. C'est très amusant d'entendre ces archives de 69, parce qu'en fait, la problématique est la même aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde connaît l'Alliance française, le nom, oui. Ça a plutôt une bonne image, le nom est connu. Quand on demande, évidemment, sur un micro-trottoir ou aux gens ce qu'ils savent, ils savent pas grand-chose, ils savent pas très bien, surtout en France. C'est plus connu
à l'étranger,
oui, parce qu'il y a 600-800 alliances dont vous avez parlé tout à l'heure, et dans beaucoup d'endroits, on connaît l'Alliance française, le siège, on y va, pas seulement les francophiles, mais enfin, c'est un lieu de rayonnement, un endroit où il est important où on trouve soit un espace de liberté, mm-hmm. notamment dans les pays qui ont des problèmes démocratiques. Les alliances ont joué un rôle clé, par exemple, sous les dictatures, pour être un refuge, un espace où, en Amérique latine pendant les dictatures, dans beaucoup de pays d'Union soviétique, etc. Et puis, c'est aussi un endroit où on fait de la culture. J'étais frappé, je suis allé en Colombie l'année dernière, et il y a plusieurs villes de Colombie dans lesquelles l'Alliance française est l'opérateur de la mairie. C'est-à-dire qu'on demande à l'Alliance française d'animer culturellement la ville. Donc c'est connu. En France, assez peu.
C'est une image assez vague. Absolu.
Oui, c'est paradoxal. Mais c'est un de nos problèmes. D'ailleurs, je suis très content d'être ici pour ça, parce que j'espère que toutes ces émissions vont faire mieux connaître ce qu'est l'Alliance française.
Donc nous sommes dans une campagne de sensibilisation, finalement.
Ben oui, voilà, absolument. Et c'est tout à fait sympathique d'être à Radio France pour ça, parce que je pense que c'est un objectif d'intérêt public, comme la radio, d'intérêt public. C'est très important de savoir qu'il y a cet organisme qui, dans le monde entier, fait connaître la langue et la culture française. Et c'est un de nos atouts majeurs.
Et c'est unique.
Enfin, il y a depuis les instituts Cervantes pour l'Espagne, le British Council, les instituts Goethe en Allemagne, et les Chinois s'y sont mis avec les Confucius.
Mais qui ne fonctionnent pas de la même façon, qui n'ont pas eu cette idée géniale, justement, d'être appuyés sur des pieds, sur des comités locaux.
Sur des comités locaux.
Ce qui fait que ça ne coûte pas cher, ça,
non.
On ne le sait pas.
Non, parce que c'est autofinancé par les cours. L'équilibre économique tient aux apprenants français qui payent pour les cours, et puis un peu de mécénat, et donc il y a bien naturellement des subventions d'État, du ministère des Affaires étrangères, mais c'est pas la partie la plus importante du budget de ces alliances. Il y en a qui sont entièrement financées par les cours, et même d'ailleurs en France. J'étais à Bordeaux il y a deux jours, et ils me disaient qu'ils étaient entièrement équilibrés, et il n'y avait pas de subvention d'aucune sorte. Il y a beaucoup de bénévoles aussi. Il faut savoir qu'il y a énormément de bénévoles. On reçoit aussi des legs. Les gens qui n'ont pas d'enfants donnent leur bien à l'Alliance française pour la beauté de la langue, pour la langue.
Et la fondation est une fondation d'utilité publique.
Bien sûr. Bien
donc
sûr.
Vous pouvez recevoir des donations.
Oui, absolument.
Pour cette propagation du français, voilà. De la culture française voilà. À l'étranger. Voilà. On la confond, puisqu'on parle, Jérôme Clément, aussi de l'image de l'Alliance française, parfois souvent, avec ce que sont les instituts français. Alors c'est pour ça que.
Oui. Oui, alors ça, c'est une question qu'on pose souvent. Alors on dit, parce que personne n'y comprend rien. Il y a beaucoup d'intervenants. Voilà. Alors, il y a, historiquement, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, 1883, ça fait plus de 130 ans, hein, 133 ans, ce sont ces associations locales, c'est une fondation privée, d'intérêt public, mais qui a ses ressources propres. Et puis, à partir de 1929, mais surtout après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la création de centres culturels d'État. Et donc, il y a en fait un double réseau, qui est un réseau de centres culturels, qu'on appelle maintenant souvent instituts français, qui sont la plupart du temps dans les capitales, et qui là sont des organismes de publics.
Alors, et qui dépendent uniquement des fonds publics, et qui d'ailleurs subissent aujourd'hui
qui sont des démembrements de problèmes
financiers.
Qui sont des organismes financés par le ministère des Affaires étrangères. Et comme en ce moment il y a beaucoup de problèmes d'argent partout, d'argent public en particulier, évidemment les subventions diminuent, les moyens diminuent, le personnel diminue, et c'est un énorme problème. D'ailleurs, c'est amusant de voir que il y a toujours eu, en préparant cette émission, je disais l'historique, il y a toujours eu à la fois des problèmes de financement, c'est-à-dire qu'il faut trouver de l'argent, donc on fait appel aux bonnes volontés. Mm-hmm. Je fais appel aux bonnes volontés à tous les auditeurs de France Inter qui ont envie d'ailleurs de nous aider.
Donnez.
Aidez-nous à propager la langue française et à faire rayonner la culture dans le monde. Ça est une problématique qui existait depuis l'origine. Il y a eu des campagnes. On organisait à l'époque, je parle des années 1900, des banquets, des bals, des loteries. Tout ce qui permettait de récupérer des fonds. Aujourd'hui, on parlerait de recherche de fonds. Je ne veux pas utiliser le fundraising, parce que ça serait scandaleux de la part de président de l'Alliance française.
Mais c'est la même idée. Présidents locaux utilisent le crowdfunding pour faire des actions culturelles.
Le financement participatif,
Et pour commencer à rentrer concrètement dans ce qu'est l'Alliance française...
On parle d'argent, on parle de notoriété.
Oui, c'est
de notoriété, c'est important aussi. Il faut que les Français sachent à quel point c'est important qu'il y ait ces organismes qui font rayonner la langue et la culture dans le monde.
Alors, et écoutez ce que nous dit, on va le retrouver, la Boualem Sansal qui avait ouvert cette émission, cet écrivain qui a inauguré un nouveau cycle de conférences que vous avez initié dans l'amphithéâtre du théâtre du boulevard Raspail au siège de l'Alliance.
Le théâtre, c'est ça. Théâtre.
Oui, c'est vrai, c'est un théâtre. Écoutez ce qu'il nous dit du rôle de l'Alliance pour lui.
C'est un relais formidable pour les écrivains. L'Alliance française a des relais partout dans le monde et donc elle permet donc aux écrivains de se déplacer de pays en pays, parler de leur travail et participer à ce combat qui est celui de la francophonie, combat dans lequel personnellement je suis très engagé depuis toujours. Pour des raisons là aussi très très complexes liées à la situation, plus à la situation de mon pays qu'autre chose.
Ce que les notices biographiques Boualem Sansal n'obètent pas de préciser vous concernant, c'est que vous êtes un écrivain algérien d'expression française. Alors ce français-là, comment vous le définissez, cet attachement, cet amour du français, la langue du colonisateur?
Oui, mais justement, il ne faut plus l'appeler la langue du colonisateur. Le français n'appartient pas aux Français. Le français est une langue universelle, elle appartient à qui la parle, et qui l'aime, et qui a envie de la parler. Donc, à l'origine, oui, bien sûr, c'est la langue des Français, mais elle vient aussi un peu de la langue des Francs, et d'ailleurs, elle a été construite de mille apports de venant de tous côtés, y compris d'ailleurs des apports arabes très importants. Donc, mon point de départ de ma réflexion, c'est que le français a fait souche en Algérie, donc c'est une langue nationale. C'est une langue qui est parlée par les Algériens, donc c'est une langue nationale. Et je ne crois pas qu'on puisse l'arrêter.
À propos de machines qui tournent, Boualem Sansal, ils vont nous en vouloir si on arrive en retard. Alors on va à la terrasse du café, vous en donner rendez-vous. Vous savez qu'ici, je crois que c'est au Select, là-bas à côté du boulevard Raspail, on commande un taxi, on sort de chez Gallimard. Est-ce que vous nous auriez commandé un petit taxi?
Mais volontiers, je vous commence ça tout de suite.
Je vous laisse répondre.
À bientôt.
Bonjour. Donc on va vers l'Alliance française. Alors. Et vous, l'Alliance française, ça vous dit quelque chose?
Non. Franchement, non.
Rien de rien. Voilà quelque chose qui va pas faire plaisir à Jérôme Clément.
Mais c'est vrai que le mot est équivoque. Hein. Alliance française, ça renvoie des connotations de partis politiques. Il serait peut-être, quand ça a été créé, il y a plus d'un siècle, ça correspondait peut-être à quelque chose, mais aujourd'hui, ça, on ne sait pas. Si on ne déconstruit pas le mot, ben on ne sait pas à quoi ça renvoie. Vous lui avez demandé Alliance française, ça ne lui dit rien. Peut-être qu'il pense à, il a peut-être pensé à des dans le champ du politique ou du religieux peut-être.
Vous avez pensé à quoi d'ailleurs? Politique, religieux.
Politique.
Ah oui. Ouais. Vous avez dit attention.
Non même pas, c'est juste le nom et il est.
Ah ça fait politique.
Ça fait politique.
Ouais.
Mais bon, c'est un héritage, donc on fait avec ce qu'on a. Hein. Voilà. Donc,
Vous me faites une petite fiche sur 8.
C'est à vous.
Merci. Ah, ça c'est vrai, Jérôme Clément, que c'est un héritage et que vous faites avec ce que vous avez, mais c'est bel héritage.
Ah oui, mais moi je suis pas du tout d'accord là avec Bolem Sansal, que j'apprécie beaucoup par ailleurs, et qui est venu inaugurer notre nouveau cycle de rencontres littéraires. Non, l'alliance est un très beau mot. L'alliance est un très beau mot. On parlait tout à l'heure des noms, mais c'est vrai que le centre culturel, ça donne l'idée du centre. Bon, donc on se voit comme le centre de quelque chose. L'alliance, ça veut dire qu'on est deux, c'est-à-dire ça renvoie à l'idée de la diversité. Et ça, c'est extrêmement important. S'allier avec quelqu'un, c'est considérer que l'autre existe en tant que tel et avec qui on a un rapport qui est un rapport d'égalité. D'ailleurs, dans le journal de 1894, donc 10 ans après la création de l'Alliance, il était écrit, ce que j'ai trouvé tout à fait remarquable, « Parler des autres peuples, de leurs mœurs, de leurs coutumes, de leurs progrès, des exemples bons à suivre qu'ils nous donnent, de leurs enfants, de leurs écoles. » Mais ça, c'est une idée d'une modernité fort extrême, quoi. C'est l'idée de la diversité culturelle.
Mais si ce n'est pas un parti
et donc,
politique, on l'a compris,
l'idée de l'alliance, au contraire, moi, je trouve ça génial d'avoir inventé ça.
Mais c'est génial parce que c'est aussi un outil, tout de même, de diplomatie culturelle.
Oui,
c'est ce qu'on
sûr.
Appelle un soft power.
Bien sûr, mais c'est un, bien sûr, mais dans une égalité et dans la reconnaissance de l'autre. Si on donne le pouvoir, justement, dans chaque pays à des étrangers, des responsables de chaque pays de diriger les alliances, ça veut dire que ça met ceux qui sont porteurs de ce message de français, de francophonie, d'une responsabilité qui nous échappe, et tant mieux, avec lequel on travaille, bien sûr, puisque c'est notre langue. Mais moi, je vois, par exemple, quand je vais à Buenos Aires, la présidence de l'Alliance française, et Monsieur Bumschil, qui est un avocat d'affaires extrêmement influent dans
le pays. Qu'on va rencontrer dans ce voyage.
Oui, ben voilà, ben Bumschil, c'est très important qu'il y ait un statut. À Hong Kong, c'est un des juges de la Cour internationale, de la Cour de justice de Hong Kong.
En Irlande, vous avez un ancien parlement.
C'est l'ancien président du Parlement européen, oui. Absolument, qui préside maintenant l'Alliance française. Ben oui, Pat Cox. Donc, on a partout des grandes personnalités, et les conseils d'administration sont à cette image. Ça veut dire qu'on leur donne le pouvoir, mais c'est très important, ça. C'est pour ça qu'on a pu d'ailleurs franchir les décennies et les siècles pour arriver aujourd'hui. Donc, l'idée de l'Alliance, en fait, il y avait déjà eu l'Alliance israélite universelle.
Ah, c'est une idée de Crémieux, ça,
c'est
ça.
C'est Crémieux en 1860, donc c'est 20 ans avant. Mm-hmm. Et l'idée de l'Alliance israélite universelle était de protéger les minorités pour faire la synthèse entre le judaïsme et les idéaux de 89 et favoriser l'accès à la culture en créant des écoles. Bon, c'est la même idée, mais là, il y avait aussi une très très forte idée. D'ailleurs, l'Alliance israélite universelle existe toujours. Et on ferait bien d'ailleurs de lui donner plus de place, parce que ça permettrait peut-être d'avoir les tensions politiques, ou en tout cas ça aiderait à ce qu'elle soit à faire partie de la violence. Donc cette idée-là, l'idée de l'alliance, elle est excellente. Et pour ça que Boilem Sansal a tort de dire que c'est un héritage. C'est un héritage, mais c'est un héritage génial.
Autre pause musicale avec vous sur France Inter, Jérôme Clément, changement de style. On est en 1960, là c'est Léo Ferré qui s'amusait, on parlait de langue à l'instant, à répertorier tous les usages d'anglicisme contaminant notre langue française. Et c'est assez fun.
C'est une barmède qu'est ma darling, mais in the bed c'est mon travelling, mon best-seller et mon planning, c'est mon starter after shaving. J'suis son parking, son one-man show, son fuel, son king, son slip au chaud. Rien qu'un petit flash au 5 o'clock, j'pète toujours cash dans le bon Dieu scope et j'cause français. C'est un plaisir. C'est ma starlette, ma very good, mon pic galette, mon Hollywood. C'est ma baby au petit fortou, c'est ma lady oh, Antutu. Je suis son jockey, son steeple chase, c'est la drivée à la française dans le sleeping car. After paillasse, à son milk bar, je me tape un glace et je cause français. C'est un plaisir. C'est ma call girl, ma savourex, qu'efface sa gueule à coup de Kleenex. C'est ma Lucky, c'est ma Palmal, ma camelle qui fait ça pas mal. Quand c'est ok, on fait le remake. Quand c'est loupé, on fait avec. J'y fais le mohair et la syntaxe. Très rock in chair, je shoot relax. Et j'cause français. C'est un plaisir. C'est une barmaid qu'est ma darling, mais in the bed, c'est du forcing, c'est du pam-pam à chaque coup de gong. C'est plus une femme, c'est un ping-pong. Quand je suis out, elle me sex appeal, et dans le blackout, je smash facile sur son standing in extremis. Je fais du pressing au self-service et je cause français. C'est un plaisir. C'est mon amour, mon coquelicot, mon petit bonjour, mon petit oiseau. And je speak French. C'est un plaisir.
France Inter, Terre d'Alliance, un voyage planétaire au sein des alliances françaises.
Si, dans 20 ans, tout le monde parlait anglais ou russe, trouveriez-vous cela normal?
Retour dans notre studio en direct en compagnie de Jérôme Clément, le président de la Fondation Alliance Française, qui à l'instant swingait dans les studios sur ses mélopées de Ferré. On prolonge notre petite histoire de cette institution qu'est l'Alliance Française avec un autre cadeau, une petite pépite restaurée par Lina. Ce discours, c'est le plus vieux que nous possédons dans notre fonds d'archives, évoquant la présence de l'Alliance Française. Ça date du 30 novembre 1943. C'était à l'occasion du 60e anniversaire de l'Alliance Française, où Charles de Gaulle, à Alger, le chef de la France en train de se libérer, évoque en plein tourment la force de l'institution, l'Alliance.
Pour qu'elle ait pu, malgré la tourmente, en tant de points de l'univers, durer là où elle était. Cela prouve, n'est-il pas vrai, quelle est la vitalité profonde de cette noble association, l'Alliance française. Et aussi, combien sont ardentes les sympathies qu'elle avait su construire et garder dans tant de contrées du globe.
Thank you. Jérôme Clément, je suis sûr que vous êtes assez sensible d'écouter là la voix de Gaulle. Alors elle est restaurée, cette voix, cette archive. Ce discours était assez long. D'ailleurs, je vous ai transmis de la part de Lina l'intégralité de la copie. Bon, absolument. Là, on a mis juste un extrait.
C'est un discours formidable, oui. Qu'il a fait pour le 60e anniversaire de la langue française, donc en 1843 à Alger. Il faut dire, on en parlera peut-être plus longuement, mais que l'Alliance française est partie à Londres et ensuite à Alger avec le général de Gaulle, donc après avoir été supprimé par Otto Abetz, qui représentait le régime nazi à Paris.
Je croyais que ces locaux avaient été transférés au lycée Montaigne pendant l'occupation, justement, à un moment donné.
Bah, c'est-à-dire que toutes les associations qui pensaient un peu librement ont été supprimées, les francs-maçons et l'Alliance française, etc. Donc en fait, l'Alliance française pendant la guerre s'est retrouvée à Londres, portée par l'Alliance française britannique, d'ailleurs, ce sont les Anglais qui nous ont aidés à ce moment-là, et de Gaulle en a été le président d'honneur. Donc il était très attaché à l'Alliance française. D'ailleurs, dans le même discours, il dit un peu plus loin, et ça c'est tout à fait intéressant dans sa pensée, et aussi pour l'Alliance française, la résistance, c'est-à-dire l'espérance nationale, s'est accrochée sur la pente à deux môles qui ne cédèrent point. L'un étant un tronçon d'épée, l'autre la pensée française. Mmh. C'est-à-dire que la grandeur de la France, elle dépendait de ses armes, et de sa pensée. Et ça, c'est une idée tout à fait fondamentale. Et d'ailleurs, il continue en disant « La France a pu de siècle en siècle jusqu'au drame présent, donc on est en 43, maintenir à l'extérieur le rayonnement de son génie, faire vivre et développer les institutions qui, dans l'Empire ou à l'étranger, se consacrent à répandre avec la langue française la connaissance et le goût de nos œuvres, favoriser et diffuser les productions de l'esprit partout, où elles apparaissent.
Alors vous la connaissez pas par cœur et vous êtes en train de lire un passage de votre livre,
oui,
L'urgence culturelle, que vous avez publié il y a peu chez Grasset, qui est un brûlot qu'il faut se procurer sur les politiques gouvernementales, en matière de culture qui manque d'éclat,
Voilà. Oui, bah non, je dis ce que je pense, c'est tout, mais sur la culture et sur la langue. Mais justement, j'ai été très frappé de voir que ce rôle de De Gaulle que je ne connaissais pas et à quel point il était attaché à l'Alliance française parce qu'il considérait que la langue et la culture étaient un élément clé de la puissance française et de son influence. Et d'ailleurs, dans le domaine interne, la création du ministère de la Culture et la nomination de Malraux comme numéro 2 du gouvernement, ministre d'État, a illustré aussi cette politique. Et c'est lui aussi qui, au Quai d'Orsay, a créé la Direction Générale des Relations Culturelles. Donc c'était vraiment une volonté politique très forte qui tenait à l'idée qui se faisait de la grandeur de la France. Et l'Alliance française, de par son rayonnement international, évidemment, lui semblait être tout à fait central dans le dispositif.
L'Alliance française a un président d'honneur, c'est son président de la République.
Oui, alors absolument, tous les présidents. D'ailleurs, ce qui est très amusant aussi, c'est que dans mes prédécesseurs, il y a trois présidents de la République. C'est-à-dire que Poincaré a été deux fois président de l'Alliance française, après qu'il ait été président de la République, Deschanel et Doumer. Et donc c'était considéré comme quelque chose de très important, cette influence là et ça a perduré, et même si, et je pense que ça perdure toujours, quoi. Alors moi j'espère bien lui donner encore plus d'éclat, et je m'y emploie.
Vous allez vous présenter à la présidence de la République, Jérôme Clément.
Voilà une idée intéressante, on va y réfléchir pour l'an prochain.
En tout cas, ce que tout à l'heure on a laissé justement Boualem Sansal s'interroger sur le nom Alliance française, mais surtout aussi nous donner sa conception de ce qu'était une langue. Et là, on est au cœur de ce qui vous passionne le plus, peut-être, dans cette affaire en tant que président de l'Alliance française. C'est la langue comme pivot d'une culture.
Oui, ah ben ça, tout à fait. Alors là, ça me passionne, parce que je pense, le disait Tristan Tzarak, la pensée se fait dans la bouche. Et d'ailleurs... La formation de la structure de la pensée, elle dépend largement. C'est pourquoi est-ce qu'on a appris le grec et le latin, parce que ça a aidé à structurer sa pensée. Et le français est une langue vivante dans lequel on a cette action. Donc la langue est quelque chose d'éminemment politique. Il n'y a pas plus politique en fait que la langue. C'est quelque chose de tout à fait essentiel. Et donc, il faut s'y intéresser en tant que tel. Les Québécois l'ont bien compris. On voit bien que le combat pour la langue au Québec, c'est un combat évidemment vital sur le plan politique. Donc, on a avec cet instrument quelque chose de qui nous appartient en commun et qui nous permet de mener une bataille d'influence essentielle dans ce 21e siècle.
On continue, Jérôme Clément, à jongler un peu avec nos archives, nos petites pépites exhumées de l'INA. On reste sur cette thématique-là de la langue, de la défense du français. On écoute celui qui a été, on est en 1969, un ancien président aussi de l'Alliance française.
Si nous jouons demain le rôle que le latin jouait au 15e siècle ou au 16e, ce sera magnifique.
Est-il concevable que demain la rue de la paix s'appelle Street of the Peace?
Concevable, hélas, oui.
Tolérable, non.
Il y a une double superstition qui s'est installée dans le monde depuis un demi-siècle, à savoir que l'anglais est une langue facile à l'apprentissage et particulièrement apte à l'expression des rapports commerciaux, touristiques et techniques. Que le français, au contraire, est une langue plus difficile à l'apprentissage, mais particulièrement apte à l'expression de la pensée abstraite, c'est-à-dire du droit, de la philosophie, de la théologie, des lettres et des arts. Eh bien, à mon avis, ça ne tient pas debout. À mon avis, toutes les grandes langues de civilisation sont aptes à toutes les expressions et que la chose dépend du locuteur, c'est-à-dire de celui qui parle. Mais c'est un fait que des millions de personnes apprennent l'anglais à cause de cette réputation et que des milliers de personnes apprennent le français à cause de cette réputation.
Si demain la langue française était une langue morte, nous serions tous des assassins.
N'assassinez pas la langue française. Donnez.
Jacques Blanpin.
Avant la guerre, dans nos écoles, nous avions 4 à 5 000 élèves. Actuellement, nous en avons 180 000. Mais ce n'est pas 180 000 qu'il nous faudrait, c'est 300. Et c'est ça mon objectif.
Alors, Jérôme Clément, vous avez écouté avec intérêt ce qui se disait là à l'instant, et sur le français, sur l'anglais, cette bataille-là, qui en 69 était ainsi exposée. Marc Blanpin disait ses objectifs, 300 000 élèves, il nous en faudrait. Aujourd'hui, ce que vous appelez les apprenants, parce que ces élèves ont tous les âges, hein. Des fois, il y a même des bébés qui apprennent le français dans certaines alliances, je l'ai vu à Toronto, mais il y a aussi des gens d'un âge plus certain qui continuent à l'apprendre. Donc, on les appelle les apprenants, il y en a plus de 550 000 en ce moment dans les 800 alliances.
Donc l'objectif de 300 000 que fixait Marc Blanpin, il est passé depuis longtemps. Évidemment, la population du monde a beaucoup augmenté, donc il faut relativiser tout ça. Mais malgré tout, contrairement à une idée reçue, le nombre d'apprenants français ne diminue pas, il augmente.
Mais le nombre de gens qui parlent, les locuteurs français sur la planète, va exploser. On parle aujourd'hui de quelques 700 millions de locuteurs à l'horizon 2050. On n'est qu'à 300 aujourd'hui, un peu moins. Donc la francophonie est une grande affaire.
Il faut bien situer ce problème, parce que la question n'est plus aujourd'hui de savoir si c'est le français ou l'anglais qui va dominer dans les relations commerciales, diplomatiques ou autres. Non, c'est l'anglais à gagner, donc c'est pas la peine de se battre là-dessus. Et on a besoin de l'anglais pour communiquer dans un certain nombre de milieux ou de cercles internationaux. Donc il faut pas là-dessus revenir sur cette affaire qui est réglée. En revanche, le français peut être, dans le 21e siècle, une des grandes langues du monde. C'est-à-dire, dans tous les pays, on parle la langue locale, sa langue maternelle, on parle l'anglais pour communiquer, et on a besoin souvent d'une troisième langue, voire d'une quatrième langue. Le français peut être cette troisième langue, elle l'est d'ailleurs, c'est un groupe linguistique, c'est le seul à être parlé sur tous les continents. Le français a énormément d'atouts, il y a 38 pays je crois, ou une quarantaine de pays qui ont le français pour langue officielle, soit totalement, soit avec une autre, et il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent en français, alors même qu'ils sont d'origine différente, et on en connaît des très fameux comme Kundera, comme Biancotti et beaucoup d'autres. Et donc, il y a des atouts tout à fait indéniables. Alors, l'enjeu, c'est celui-là. C'est que le français soit une des grandes langues du monde au XXIe siècle. Pas seulement pour faire cocorico, pour dire on est content de ça, non, parce que c'est important pour former sa pensée, d'avoir une autre façon de s'exprimer, d'avoir accès à un autre type de culture, d'avoir une autre façon de penser. Comme on le disait tout à l'heure, la langue structure la pensée. Et l'homogénéité dans un sabir d'anglais d'aéroport n'est pas une bonne façon d'envisager l'évolution de la pensée de chacun. Et beaucoup de gens dans le monde le ressentent. Et donc ils apprennent le français. Pourquoi ils apprennent le français? Ils apprennent le français pour des intérêts économiques, parce qu'ils veulent aller travailler au Canada, en France ou dans les pays francophones, en Afrique notamment. Les Chinois apprennent le français pour aller travailler en Afrique, par exemple. Ils apprennent le français parce que c'est une belle langue, donc l'intérêt esthétique aussi, la culture, évidemment, l'image.
Ça en plongera à l'intérieur de ces mystères-là, pourquoi on apprend une langue qui n'est pas la sienne, c'est
fascinant.
Et puis
évidemment, il y a aussi le tourisme, les échanges internationaux, etc. C'est évidemment très intéressant. Donc, cette motivation-là, elle n'a pas du tout disparu. Ces motivations-là, elles n'ont pas disparu. Elles évoluent, mais c'est à nous aussi de les accompagner et de leur donner leur place dans le monde globalisé.
Alors Jérôme Clément, vous qui êtes à la tête depuis 2 ans de l'Alliance, de la Fondation de l'Alliance française, et qui connaissez que trop cette problématique-là qui est inquiétante du manque de moyens pour mener une diplomatie culturelle, est-ce que vous avez aussi l'impression que la francophonie n'est pas en France, mener avec suffisamment de poigne cette affaire-là qui nous concerne tous? 80 pays sont membres d'Organisation internationale de la francophonie, c'est une grande...
Oui, bah c'est un des problèmes. C'est-à-dire, mais c'est pas un problème uniquement gouvernemental ou politique. Les Français, dans l'ensemble, défendent mal leur langue. Il y a des acharnés, il y en a beaucoup qui la défendent bien, mais beaucoup aussi s'en moquent. Et en particulier, je suis très frappé dans les milieux économiques, dans les chefs d'entreprise, parfois même dans les cercles internationaux, parfois aussi dans les cercles politiques. On abandonne le français au profit de l'anglais. Évidemment, il arrive que ça soit indispensable, sinon on ne peut pas communiquer, mais ce n'est pas du tout le cas dans nombre de circonstances où finalement il y a une espèce de mode de laisser aller, je dirais, d'absence de prise de conscience de l'intérêt qu'il y a à parler sa langue. Et il y a même parfois des ambassadeurs ou des responsables politiques qui, à l'étranger, arrivent quelque part et commencent à parler en anglais. Mais ça choque même leurs auditeurs étrangers. Ils se disent, mais qu'est-ce qui leur prend de ne pas parler leur langue, quoi, de parler anglais? Je trouve ça indécent et totalement inconséquent, surtout. Donc, la responsabilité, elle est partout, mais elle est aussi dans les entreprises publiques. Hein. Je ne sais pas si à Radio France, parfois, ou dans d'autres organismes, je pense à la SNCF, par exemple, qui fait des campagnes de publicité en anglais, alors que c'est une entreprise de transport national. C'est invraisemblable. Il faut parler sa langue, il faut parler le français.
Bon, on continue notre petite histoire de cette vénérable institution que vous présidez, Jérôme Clément, avec nos petites pépites, celles qu'on a pu exhumer de l'INA. Et là, petit saut dans le temps à nouveau, nous sommes en mars 1956, cette date va vous intéresser parce que c'était l'inauguration des nouveaux locaux du siège du 101 boulevard Raspail que vous avez découvert en tant que président il y a 2 ans. Et en même temps que l'inauguration, se tenait le 5e congrès mondial de l'Alliance française et ça donnait cela.
Et je m'en vais maintenant demander leur impression aux délégués de l'Alliance française qui sont venus du Canada et tout d'abord à monsieur Jean-Marie Morin de Sherbrooke.
Eh bien, monsieur Zitrone, mon impression, c'est que, franchement, je suis réellement surpris de voir un si grand nombre de délégués provenant de toutes les parties du monde. Et je pourrais même mentionner l'Angleterre, l'Irlande, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, l'Australie, les Indes, l'État d'Israël et... toutes les colonies françaises, il va sans dire. J'ai même vu ce matin des femmes hindoues avec leurs grandes robes, ce qui m'a un peu surpris et même amusé un peu parce que ce sont des costumes que nous ne voyons jamais chez nous. Et ce qui m'a surpris aussi le plus, c'est de voir une si forte délégation de Grande-Bretagne.
Ce qui prouve que la culture française est en honneur en Grande-Bretagne.
Et évidemment, mon cher monsieur, je dois vous avouer que jamais je ne me suis senti aussi fier de mes origines françaises et de ma langue française. Et je demande aux Canadiens français de considérer le fait que la langue française et la culture française occupent dans le monde une place qu'ils ne connaissent peut-être pas, dont ils ne sont pas au courant, et je leur demande d'être toujours fiers de leur belle langue française, de leurs origines françaises, et de parler cette belle langue française partout et de la bien parler surtout. Merci, M. Zitron. Et j'en profite aussi pour saluer d'une façon toute particulière notre très dévoué président de l'Alliance française de Sherbrooke, M. le notaire Léonidas Bachand.
Eh bien, je vous remercie, M. Morin. Vous me fournissez une transition très facile puisque le fils de Maître Bachand est avec nous. Il s'agit de M. Guy Bachand, qui est venu également de Sherbrooke. Bonjour, M. Bachand. Je voudrais que vous me donniez, vous, vos impressions, par exemple, sur ce nouvel immeuble de l'Alliance française que l'on a inauguré ici aujourd'hui.
Quand je passais dans le quartier, il y a 2 ans, je regardais les progrès de construction de l'édifice. Et aujourd'hui, c'est le grand jour, tout est terminé et on procède à l'inauguration. L'immeuble de l'Alliance française situé boulevard Raspail, près du quartier des Écoles, le quartier latin, le 6e arrondissement, est un immeuble moderne de 7 étages, de ligne très sobre, mais parfaitement adapté aux besoins, on pourrait dire, de la cause.
Exactement.
Exactement.
Alors était-il, Jérôme Clément, quand vous l'avez découvert, ce bâtiment, il y a 2 ans, en tant que président, encore adapté aux besoins de la cause, 60 ans plus tard?
C'est émouvant de toute façon de voir un immeuble sur lequel est inscrit en lettres de pierre Alliance française, parce que cet immeuble, c'est amusant d'ailleurs de voir qu'il appartenait en fait à la curie romaine et qu'il servait au petit séminaire de l'église Notre-Dame-des-Champs. Et ce terrain a été donné ensuite aux universités, je pense après la séparation de l'église et de l'État, et en 1910, et c'est à ce moment-là qu'il a été acheté, donc, et c'est devenu un temple de la laïcité. Donc c'est assez amusant de voir que ce passage d'un système à un autre. Et il a été inauguré en 1913 par Louis Barthou, qui était président du Conseil à l'époque. Alors c'était émouvant de rentrer dans ces bâtiments historiques. Ils étaient très adaptés en 1956. Là aujourd'hui, il y a besoin de les réadapter, de les moderniser. Il y a toujours besoin de faire un peu de ménage et de modernisation.
Par exemple, le superbe amphithéâtre qui abrite...
Le théâtre.
Pardon,
amphithéâtre. C'est pas du tout un amphithéâtre, c'est un théâtre.
J'ai pas vu de conférence, c'est pour ça.
Oui, mais c'est un théâtre qui a une très grande histoire parce que des grandes personnalités du monde du théâtre y ont joué, à commencer par Lecoq ou Beckett. Enfin, il y a eu des tas de Jouvet. Enfin, il y a eu énormément. C'est un très beau théâtre.
Donc les travaux vont commencer bientôt.
Oui, parce que là, il a besoin, les sièges sont avachis, les problèmes de sécurité incendie, les problèmes d'accès aux personnes à mobilité réduite, enfin il y a tout un tas de choses, et puis il faut moderniser, remettre à neuf, comme la maison de la radio, que là, je suis dans un nouveau studio que j'admire.
Vous pouvez, ça coûte très cher.
C'est pareil, hein, la maison de la radio, elle a besoin d'être faite,
et
l'Alliance française a besoin aussi d'un coup de jeune. Mais ça c'est normal, il faut le faire régulièrement. Mais ce qui est intéressant au-delà de cette situation, c'est que toutes les alliances françaises ont un patrimoine immobilier dans le monde très important. Il y a eu un désir de s'installer dans la durée et pour ça d'être propriétaire des immeubles. Et on a de par le monde, enfin on a les alliances françaises qui sont propriétaires, des patrimoines, des immeubles historiques absolument incroyables.
Et en France aussi. Et alors on en visitera d'ailleurs quelques-uns d'ailleurs de ces immeubles somptueux et magnifiques,
oui,
étonnants.
Oui, le plus beau, moi j'étais très frappé, je suis allé avec François Hollande, le président de la République, à Cuba pour l'inauguration du Palais Gomez, le troisième siège de l'Alliance française à La Havane. Et c'est un palais qui appartenait à un président de Cuba au début du XXe siècle, qui est absolument magnifique. Et il y a à cœur, dans beaucoup de pays, de donner à la France et à l'Alliance des endroits dignes de la mission qu'ils exercent. Et voilà, c'est pas le cas partout, mais c'est quand même très important dans beaucoup de pays.
Puisqu'on les a évoqués, ces alliances en France même.
Le siège social, c'est essentiel. Hein, c'est,
oui,
Oui. C'est un effet d'image aussi fondamental, d'histoire et d'image. Le 101 boulevard Raspail est connu de partout. Donc il faut effectivement.
Les étudiants du monde entier viennent. Combien aujourd'hui d'apprenants, ne serait-ce qu'au siège chaque année?
Alors là, c'est l'Alliance française Île-de-France, la FIF, qui est, il y a une réforme en 2007 qui a séparé la fondation que je préside de sa structure parisienne et Île-de-France. Donc c'est eux qui sont chargés de l'enseignement. Il y a 10 000 à peu près étudiants apprenants français qui viennent à Paris. Et ça laisse des traces très profondes. Par exemple, Zao Bouki, Claudia Schiffer, Hector Biancotti ont appris le français, il y en aurait beaucoup d'autres. Boulevard Raspail. Et donc ça laisse des traces ensuite, parce qu'ils s'en souviennent, ils sont attachés. C'est comme ça d'ailleurs que le français est resté très important à La Havane, parce que Che Guevara avait appris le français à Rosario en Argentine, à l'Alliance française, et quand il y a eu l'affaire, et quand ils ont viré tout le monde après l'affaire de la baie des cochons, ils ont dit non, on touche pas à l'Alliance française, parce que il était très attaché à cet endroit où il avait appris le français. Et donc l'Alliance française est restée à Cuba jusqu'à maintenant la seule organisation linguistique et culturelle présente à La Havane, ce qui explique son succès. Il y a plus d'étudiants à La Havane qu'à Paris. C'est considérable.
Votre principal souci aujourd'hui, Jérôme Clément, on a compris, il faut remuer cette institution, il faut secouer un peu cette vieille dame.
Il faut la moderniser, c'est tout, oui.
Et il faut pour ça se trouver aussi à même de relever des défis. On va en parler demain, dimanche, dans une seconde émission. On va rencontrer les lieux, on va rencontrer les gens, on va énumérer les 9 étapes, les 8 qui nous restent là maintenant à faire ensemble. Ce que vous avez découvert, c'est que vous étiez à la tête d'un trésor. On peut en parler là maintenant. Ce sont les gens qui font les alliances françaises sur place, qui se démènent, et même en France d'ailleurs.
Ben oui, bien sûr. Là, on a parlé des immeubles, on a parlé de la notoriété, etc. Mais c'est la richesse, c'est la richesse humaine. La richesse humaine. Mais moi, ça me frappe beaucoup. Partout où je vais, je commence à avoir un peu circulé dans le monde pour voir différentes alliances. Et en France aussi, je vois des militants et je vois des bénévoles. Ça, je trouve ça réconfortant. C'est-à-dire des gens très attachés à la langue, très attachés à ce qu'ils font, très attachés à la culture et qui se donnent un mal de chien. Pas seulement les Français, on parlait des conseils d'administration et des comités qui sont locaux, mais ce sont des bénévoles qui n'en tirent aucun profit personnel, qui simplement ils se battent parce que il y a une certaine idée de la France. Enfin, je veux pas employer des grands mots, mais quand De Gaulle disait c'est la flamme claire de la pensée française, ou Camus, la langue et notre patrie commune, c'est ressenti. D'ailleurs, moi j'ai fait un lien direct entre tout ce que j'ai vu et les foules énormes qui sont venues après les attentats contre Charlie et l'assassinat des dessinateurs, Camus, Volinsky, etc. Un crayon à la main parce qu'on avait touché à la liberté d'expression. Et je pense que dans l'inconscient mondial, dans l'inconscient collectif, cette image-là, elle est très forte. Donc on a une richesse humaine. J'étais en Ouzbékistan il y a quelques semaines, à Tashkent, et je voyais des Ouzbeks remarquables, engagés, se battant pour que le français se développe en Ouzbékistan.
Et sur ces ondes, vous allez entendre des Coréens, vous allez entendre des gens qui viendront d'endroits plutôt improbables. Vous allez entendre toutes ces énergies, ça sera demain, parce que là, malheureusement, les meilleures choses ayant une fin, cette émission s'arrête maintenant. D'ailleurs, il y a le générique qui est en train de défiler derrière moi. Oui, c'est ça. Il me faut remercier, en tout premier lieu, celle qui a l'INA, l'Institut National Audiovisuel, Marthe, Laurent, Clotilde, Fillot, a su découvrir ses pépites autour de l'Alliance française, qui est très peu documentée. Jérôme Clément, vous le savez, ça aussi.
Oui,
et c'est ce qu'on va faire. Et oui, mais vous savez que j'ai ça dans les mains, là. Oui, j'ai cette tâche aussi. Demain, à la même heure, donc on prolonge avec vous cette brève histoire de l'Alliance. On va aller rencontrer ces hommes. On va s'évader grâce à vous en se cultivant. Vous pouvez retrouver, chers auditeurs, toutes les informations sur le réseau de l'Alliance française en vous rendant sur le site de la Fondation Alliance française. Tous les détails se trouvent sur le nôtre, franceinter.fr, à la page de l'émission Terre d'Alliance, une émission que vous pouvez réécouter et télécharger. Vous y trouverez aussi tous les repères bibliographiques et discographiques, ainsi qu'un bonus multimédia chaque semaine qui va être confectionné par notre community manager Léa Minot, assistée de notre stagiaire Rachel Chiche. N'oubliez pas notre page Facebook, notre compte Twitter, hashtag Terre d'Alliance. Programmation musicale, Thierry Dupin. Derrière la console de diffusion, Lucas Vaillant. La série est proposée par Alexandre Hérault avec l'Alliance française et réalisée par Bertrand Chometon.